Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, nous avons débuté ensemble dimanche matin une pensée extrêmement importante, l'inestimable valeur de Jésus. Amen. On parle de beaucoup de choses. Parfois, il y a beaucoup de thématiques qui sont importantes. On ne veut pas juger, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques. Et dans l'avenir aussi, on regardera d'autres thématiques. Mais la thématique la plus centrale, le fondement de tout ce que nous avons, c'est Jésus. Amen. Quelqu'un dit amen ce soir, c'est notre fondement. Et je veux vraiment poursuivre, si vous n'étiez pas avec nous, peut-être que vous étiez sur Long ou sur République dimanche, vous n'avez peut-être pas pu entendre ce message. Il sera bientôt disponible sur Internet dimanche dernier. On veut continuer, c'est le deuxième message de l'inestimable valeur de Jésus. Et ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qu'on a des difficultés à parler, c'est notre passé. Et c'est l'histoire de trois hommes qui sont dans un bar. Un soir, ils boivent un coup ensemble, ils parlent et tout ça, ils ont vraiment un très très bon temps, ils ne voient pas le temps passer. Et tout à coup, il se fait tard, de plus en plus tard, et finalement, ça devient les petites heures de la nuit. Et tout à coup, le premier dit aux autres, il dit « Oh là là, les gars, je regardais l'heure, vraiment, je dois rentrer, ma femme, elle va me tuer, vraiment, je dois y aller, écoutez, je me barre et tout. » Ah ouais, le deuxième dit « Oh là là, et moi, ma femme, oh, qu'est-ce qu'elle va me faire et tout, les gars, vraiment, vraiment, oh là là, je vais essayer de rentrer sans qu'elle puisse voir que je suis rentré et tout, je trouve une façon, mais t'as vu l'heure qu'il est, ah, et le troisième, lui, il n'a pas de femme, donc il se dit « Bah les gars, écoute, on se revoit bientôt, ok, les trois rentrent, et puis un peu plus tard, ils se retrouvent au même bar. » Et celui qui n'a pas d'épouse dit aux deux autres, il dit « Alors, comment ça s'est passé avec vos épouses? » Et le premier dit « Écoute, nickel. Elle dormait, elle ronflait. Je suis rentré, je me suis glissé sous la couette. Elle n'a rien vu. Le lendemain matin, on s'est levé, tranquille. » Et le deuxième « Et toi? » « Ah, moi, je ne te raconte pas. Ma femme, elle était réveillée. Elle était debout dans l'entrée. Elle m'attendait. Et elle était historique. » Et là, les deux autres le regardent, lui disent, « Tu veux dire hystérique? » Non, 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 non. Elle était historique. Elle a fait une crise historique. Elle était dans une historique. Non, 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 tu comprends pas. Tu parles pas bien français, toi. Tu dois venir de notre nationalité. Et tu veux dire que ta femme était hystérique? C'est un mot en France, c'est un mot français qui dit être en hystérie. Donc, ta femme était vraiment en colère contre toi. Non, 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 non les gars, j'utilise le bon français. Ma femme n'était pas hystérique, c'est encore pire que hystérique. Elle était historique. Mais qu'est-ce que tu veux dire par historique? Elle a refait toute l'historique de mon passé. Tous mes péchés, toutes mes erreurs, toutes les fois où je n'ai pas été un bon mari, elle les a toutes comptées, enregistrées, et à chaque fois que je fais une gaffe ou une erreur, elle me rappelle toute l'historique. Et en final, eh bien, son passé le suit. Et voyez-vous, il y a quelqu'un aussi d'invisible, qui s'appelle le diable, qui aime bien nous faire aussi l'historique de notre passé, n'est-ce pas? Et je veux qu'on puisse parler de quelque chose de très important ce soir. Parce que il y a, l'apôtre Paul parle des richesses infinies que nous avons en Jésus-Christ, mais il faut commencer par le début. On va commencer par la Genèse, et on va voir que dans la Genèse, le mot Genèse veut dire début, dans la Genèse, il y a le début, il y a la première chose que nous avons en Jésus-Christ, c'est que Jésus est venu pour régler notre passé. À un tel point qu'il n'y aura plus de crise historique. C'est fini, c'est terminé. On parle beaucoup des blessures, on parle de guérison, c'est très important parce qu'il y a des gens souvent qui viennent à l'église qui ont besoin d'être guéris intérieurement et c'est un sujet qui est très important. Mais on parle pas souvent du mal, on parle parfois du mal qu'on nous a fait, mais c'est rare qu'on parle du mal qu'on a fait aux autres. Et voyez-vous, quand on fait mal à quelqu'un d'autre, c'est ce que la Bible appelle une offense, un péché. Le mot aussi « manquer », lorsqu'on manque, le mot « péché » veut dire « manquer envers quelqu'un », « manquer le but », tu vois. Et parfois, on fait des erreurs, on a commis des péchés envers quelqu'un. Vous remarquerez que beaucoup, il y a, dans les commandements, il y a des péchés qui sont envers Dieu, de ne pas avoir d'autres idoles, hein, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais la majorité des commandements, après, plus de commandements de Dieu concernent des relations entre nous. De ne pas pécher les uns contre les autres, de ne pas se faire mal, de pas, voyez-vous. Et donc, on peut offenser quelqu'un, on peut manquer envers quelqu'un, offense, péché, manque, c'est le mot péché, et on peut repartir. Et parfois, certains ne s'en rendent pas compte, mais la Bible dit de ne pas se tromper, ton péché te retrouvera. Et parfois, pas parfois, mais il y a un principe de vie, lorsqu'on fait mal, le mal nous rattrape et nous fait mal. Et à un moment donné, le mal que tu as fait te rattrape et ce qu'on appelle avoir des regrets, des remords et même des blocages avec Dieu, des blocages même dans sa vie personnelle, sur toutes sortes de choses. Mais Dieu est tellement amour. Dieu voit que lorsqu'on fait mal, on se fait mal. Et le Seigneur Jésus, Dieu a envoyé son Fils pour régler cela. Je parlais de quelque chose de tellement simple ce soir, mais de tellement important et profond, parce que la marque parfois vient jusque dans l'esprit, la mémoire, les entrailles, et peut influencer même le comportement de quelqu'un, même l'avenir de quelqu'un à cause de son passé. Les gens traînent des casseroles, les gens ont des choses à leur mémoire, ont toutes sortes de blocages, voyez-vous. Je pense à un jeune homme qui s'est approché de Dieu dans les derniers mois et qui me disait, « Pasteur, avant je faisais le mal, j'allais dormir tranquille. Et quand j'ai commencé à m'approcher de Dieu, wow, c'est plus pareil. Si je manquais d'amour, de douceur envers quelqu'un, ça me rattrapait. Même je me suis surpris, pasteur, à même pleurer parfois de regret. » Oui, parce que le Saint-Esprit travaille, voyez-vous, dans nos cœurs. Mais il veut nous amener à pas essayer de... On ne peut pas réparer ce qu'on a fait, mais Jésus a réparé ce qu'on a fait. Jésus a vraiment, et quand on étudie ce que Jésus a fait à la croix pour nous, c'est littéralement une réparation légale que Jésus a fait pour nous. Et si vous le voulez bien, on va regarder à deux petites histoires très, très simples. Mais Dieu a pourvu en Jésus d'effacer les regrets et les remords de ton passé. Dieu nous offre en Jésus d'être quitte avec Dieu et avec tout le monde. Ça veut dire que même si quelqu'un tient contre toi quelque chose et tu lui as demandé pardon, mais il tient, il y a de la rancune, il a dit non. Eh bien, à un moment donné, j'ai demandé pardon, mais je ne peux pas faire plus. Si la personne ne te pardonne pas devant Dieu par le sang de Jésus, même si la personne ne te pardonne pas parce que tu as demandé pardon, même si, disons que c'est toi le coupable, tu as blessé quelqu'un, tu lui demandes pardon, la personne tient rancune, devant Dieu, tu es quitte. Voilà, tu es quitte avec Dieu, tu es quitte avec cette personne-là, par Jésus-Christ. Et Dieu nous acquitte en Jésus. J'aimerais vous démontrer ce soir que la base logique de tout vrai système de justice, c'est l'équité et la rétribution. Il n'y a pas de justice s'il n'y a pas d'équité. C'est pour cela que la Bible a établi la loi du talion. Merci Seigneur que lorsque vous arrivez à l'église Paramétropole, nous n'accomplissons pas la loi du talion. Parce que la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, 100%. C'est impressionnant. Parce que la vraie justice, c'est l'équité. Tu as fait mal, on te fait mal. Tu as coupé un doigt, on va te couper un doigt. C'est ça la vraie loi. Maintenant, je ne dis pas que c'est le désir de Dieu. Mais Dieu a mis le talion, pas pour que les hommes se fassent mal et se vengent. Dieu a mis le talion pour que les hommes comprennent qu'est-ce que la vraie justice. La vraie justice, c'est l'équité. Et la vraie justice aussi, dans la loi de Moïse, c'est la rétribution. Tu as volé, tu vas rendre. Même la loi de Moïse dit, tu mets une femme enceinte, tu l'assumes, tu la maries, ça devient ta femme, ça devient ton enfant. Ça, c'est la loi de Moïse. La loi de Dieu, c'est une loi d'équité, et c'est une loi de justice, et c'est une loi de rétribution. Mais maintenant, on a un gros problème, parce que Dieu ne traite pas nos actes, les amis. Non. Dieu traite beaucoup plus profondément que nos actes. Dieu traite nos pensées. On l'a vu ensemble dans Colossiens dimanche, si vous n'étiez pas là. Dans Colossiens, ça dit que nos pensées nous rendent coupables devant Dieu. Donc, dans la justice française, les actes peuvent condamner un homme, mais pas ses pensées. Un Français peut réfléchir à tuer son voisin parce qu'il n'en peut plus, mais s'il ne le fait pas, il est OK. Dans la justice de Dieu, il l'a tué, il est coupable de mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Et voyez-vous, Dieu traite nos pensées comme des actes. Donc, si Dieu nous traitait vraiment selon sa justice, ce soir, l'Église serait fermée. Il n'y aurait personne ici, on serait tous morts. Parce qu'on est tous pécheurs et on est tous coupables. Et ça, c'est très, très intéressant. Maintenant, Dieu est amour. Et vous allez découvrir quelque chose, si vous n'êtes pas chrétien, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire dans le christianisme qui n'existe nulle part ailleurs. Je ne l'ai jamais vu, j'ai étudié les religions. C'est ce qu'on appelle la substitution légale. Donc vous dites, mais la vraie justice, c'est tu as coupé un doigt, on te coupe un doigt. Mais Dieu accepte quelque chose. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et là, tu dis, mais Seigneur, toi qui es juste et parfait, parfait dans ta justice, tu acceptes quelque chose qui pourrait nous paraître injuste. C'est que je peux faire le mal et quelqu'un pourrait payer à ma place pour le mal. Ça, tu trouveras ça nulle part. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Maintenant, c'est très intéressant parce que Dieu tient, et Dieu dans sa justice, tient à ce qu'il y ait cette équité, cette rétribution, cette restitution. Tu as pris, on va te prendre. Mais il accepte que quelqu'un le fasse pour nous. Et le premier endroit où on voit cela, ne tournez pas, mais c'est dans Genèse, le chapitre 3. Ne tournez pas, on va aller tout de suite au chapitre 4. On va aller voir Caïn et Abel. Mais dans le chapitre 3, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans le sommet du monde, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas plus merveilleux que le jardin d'Éden. Adam et Ève viennent de commettre le péché. Ils se sont maintenant séparés de l'Esprit de Dieu. La Bible a dit ils reconnurent qu'ils étaient nus, mais en hébreu, ce n'est pas tout à fait ça. En hébreu, c'est ils reconnurent qu'ils étaient en haillons, comme dénudés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève vivaient constamment dans la présence de Dieu et en commettant le péché, la présence de Dieu s'est retirée. Ils ont ressenti le vide lorsque Dieu se retire. Ça vous est déjà arrivé? Tu aimes Jésus de tout ton cœur, le Seigneur te dit « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça », tu le fais et tout à coup, tu sens un vide. N'éteignez pas l'esprit, Paul a dit. Et là, Adam et Ève se retrouvent et Dieu vient les voir. Et Dieu leur dit « mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous connaissez l'histoire, tout ça. » Et la Bible dit, parce qu'ils ressentent, ils se sentent dénudés. Il n'est pas question ici d'un froid physique. J'en suis convaincu. Mais ce dénuement intérieur. Et Dieu va tuer un animal. Impressionnant, hein? Dans le jardin d'Éden, parfait, pur, où il n'y a jamais eu de violence. C'est impressionnant. Le Créateur lui-même va commettre un acte violent. C'est tout à fait biblique ce que je vous dis. Il va tuer un animal, va prendre la peau de l'animal, donc le sang sera versé. Et il va couvrir Adam et Ève avec la peau de l'animal. Et ça, c'est une prophétie de Jésus qui allait venir. Et que par sa mort, on allait, nos péchés, notre passé, allaient être couverts par Jésus, cachés en Jésus. Voyez-vous? Après, on arrive dans... ça, c'est le premier endroit où on voit le sang. Pourquoi est-ce que je veux parler du sang ce soir? Pas parce que je suis un peu machiavélique, mais parce que le sang est l'un des sujets qui traverse toute la Bible. Le sang, le premier endroit où on voit du sang versé, c'est dans le jardin d'Éden même qu'on voit le sang couler. Et on va voir le sang jusque dans l'éternité. Parce que ça dit que dans l'éternité, à la fin de l'Apocalypse... Dieu parle à Jean et lui montre, plus que la fin des temps, il lui montre la période de l'éternité et il lui dit, il lui parle du trône de Dieu et de l'agneau. Et l'Apocalypse présente souvent Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est le sacrifice de Dieu, celui qui s'est donné pour régler notre dette avec Dieu. Même quand Jésus vient comme victorieux, on ne va pas le voir ce soir, mais dans les prochaines semaines, quand Jésus vient comme victorieux pour reprendre toute la gouvernance de cette planète qui est en train de devenir n'importe quoi, la Bible dit qu'il vient comme un puissant conquérant et sa robe est tachée de sang, le sang de l'agneau. Et voyez-vous, le sang, c'est un sujet qui devrait nous intéresser, pas parce qu'on aime la violence, mais le sang devrait nous intéresser parce que la Bible dit « la vie est dans le sang ». On va le lire ensemble. Restez bien dans Genèse 4. On va y revenir dans un instant. Je le lis pour vous. Mais écoutez bien ceci. En effet, quand Dieu donne la loi à Moïse, il dit ceci. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Impressionnant. car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est Lévitique 17, 11, ceux qui s'intéressent. Mais Dieu dit, la vie est dans le sang. Donc, si le sang reste dans mon corps, la vie n'est pas partagée. Il faut que le sang, il faut qu'il y ait quelque chose de déchiré. Il doit y avoir un sacrifice, un acte violent de justice, œil pour œil, dent pour dent, souvenez-vous, vie pour vie, meurtre pour meurtre. Et dans la justice de Dieu, c'est une exigence céleste du trône de Dieu, vie pour vie. Tu as pensé le mal de ton voisin, tu es coupable de mort et toute l'humanité est coupable, alors quelqu'un doit mourir pour l'humanité, le sang doit couler, c'est une exigence. Vous allez dire, mais qu'est-ce que Dieu est méchant? Non, il est juste. Et Dieu dit, la vie est dans le sang. Donc, dans l'expression du sang, il y a toute la vie de Jésus. Maintenant, j'aimerais vous démontrer, parce que notre thématique n'est-elle pas l'inestimable valeur de Jésus? La vie de Jésus vaut plus que la vie de Christian Robichaud. Parce que moi, je pourrais donner ma vie, personne ne sera sauvé. Mais Jésus donne sa vie, si toute l'humanité acceptait Jésus, toute l'humanité serait sauvée. Avez-vous imaginé l'inestimable valeur de Jésus? Alors, on arrive maintenant dans Genèse, le chapitre 4. Et là, on trouve deux hommes qui s'appellent Caïn et Abel. Leur papa, c'est Adam, leur maman, c'est Ève. Et la Bible dit que Caïn était un agriculteur et Abel, c'est un berger, c'est quelqu'un qui élève des animaux. Et on le prend en verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Regardez ce que ça dit. « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. » On peut traduire, « Caïn fut très irrité et son visage tomba. Il est extrêmement déçu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air si sombre? Pourquoi est-ce que ton visage est tombé? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » J'aimerais qu'on fasse quelque chose ce soir de très intéressant, ce qu'on appelle une exégèse. Une exégèse, c'est étudier le texte dans son contexte. Et à chaque fois qu'on ouvre la Bible, chaque enfant de Dieu devrait prendre le texte dans son contexte. La première chose qu'on réalise ce soir ensemble, c'est qu'avant Caïn et Abel, on ne voit aucun homme offrir un sacrifice à Dieu. Donc, on se pose une question ce soir. Où ont-ils eu l'idée de dire « Je vais offrir un sacrifice à Dieu » Ce n'est pas un héritage, ce n'est pas une transmission. Personne ne leur a enseigné ça. Où ont-ils pris l'idée? Il y a très peu de choses qu'on peut savoir. Ils n'ont pas de loi, pas d'écrit, rien. Mais il y a certaines choses que l'on sait ce soir qui sont très intéressantes. Premièrement, c'est que d'après Romains, certains hommes qui n'ont jamais eu la loi ont la loi dans leur cœur. Vous savez que c'est écrit, ça. Donc, dans leur conscience. On ne peut pas solliciter Dieu, s'approcher de Dieu, invoquer Dieu, se tourner vers Dieu, s'approcher de Dieu. Comme ça, on ne peut pas. On est séparés de Dieu. Nos parents ont été séparés de Dieu. Dieu a fait sortir nos parents du jardin d'Éden. Mes parents, mon père vivait dans la présence de Dieu et mon père et ma mère ont désobéi une fois et fini pour la vie. Quel Dieu de justice! Un chérubin protège le jardin d'Éden, on ne peut pas rentrer. Mais on aimerait peut-être communiquer avec lui, et on le voit, Dieu va visiter, car Dieu va lui parler même. Donc, on ne vit pas dans une société athée, on vit dans un monde où l'homme croit qu'il peut parler avec Dieu, mais il est bloqué, comment je pourrais m'approcher de Dieu? Alors, ils disent, il faut lui offrir quelque chose. Et là, les deux vont avoir une approche différente. Et là, on pourrait dire que, ah, mais c'est simple. Voyons, on savait, nous, que Dieu, un jour, Jésus allait venir. Jésus est l'agneau de Dieu. Et Abel, il offre un agneau. Donc, Abel, il est bien tombé. Et c'est un sacré coup de chance. Abel est un berger, ça a bien tombé. Et puis, Caïn, c'est un agriculteur, ça a mal tombé pour lui. Mais non, c'est plus profond. Parce que la Bible enseigne aussi, voyez-vous, on est au tout début de la Bible. On a très, très, très peu d'éléments pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Mais le reste de la Bible fait lumière sur cette histoire. Et on sait que Dieu regarde au cœur. Si vous avez peut-être, disons que vous aimez aller dans les musées, vous allez dans un musée, vous regardez un tableau, il y a un tableau qui vous intéresse, et vous vous arrêtez, vous regardez. Vous êtes déjà allé dans un musée? Il y a des gens qui s'arrêtent tellement qu'ils bloquent tout le monde, tu vois. Et tu as envie de dire, moi aussi je veux voir le tableau. Après, il y a des touristes qui viennent, ils font plein de photos, ils repartent. Mais il y a des gens qui s'arrêtent et qui regardent le tableau. Et c'est le mot qui est utilisé pour dire, Dieu s'est arrêté et Dieu a observé ce que Abel a fait. Et to gaze at. Dieu est émerveillé parce que Abel a compris quelque chose de Dieu. Cain, il n'a pas compris. Il a pris son travail, c'est son agriculture, c'est ce que lui a fait. Il le prend, il le brûle, et il offre à Dieu, essaie de faire monter une offrande vers Dieu de ce que lui a fait. Et la Bible dit, Dieu dit non. Abel ne va même pas offrir un mouton. Il va offrir un agneau. Il y a une différence très importante ici. Parce que l'agneau, il n'a aucun mérite. Abel a dû comprendre quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a compris. Mais il a probablement saisi la justice, le sang. Quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit payer pour le mal qu'il y a en moi. Et je ne sais pas, peut-être qu'Abel, il a fait des essais. Peut-être qu'il a offert d'autres choses, ça n'a pas marché. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, Abel a offert un agneau. Il a vu que c'était agréable à Dieu. Il a appris avec Dieu comment ça marche. Il n'a pas offert un mouton, parce qu'un mouton, il aurait pu avoir quelques mérites. Je l'ai gardé, je l'ai protégé, je l'ai nourri, je l'ai amené dans de verts pâturages. J'ai bien pris soin de mon mouton. Mais un agneau, tu n'as aucun mérite. Il sort, il vient juste de naître. Il prend un agneau, donc il offre à Dieu quelque chose sur quoi il n'a aucun mérite personnel. Et l'agneau va mourir pour que Abel puisse être en contact avec Dieu. Il a compris quelque chose de fondamental. Quelque chose doit payer. Quelqu'un devra mourir pour que je puisse vivre. Quelqu'un doit payer pour mes fautes. Quelqu'un de pur, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec moi, quelqu'un sur qui je n'ai aucun mérite, un agneau nouveau-né. Et alors qu'il fait cela, la Bible dit que Dieu gazes, Dieu s'arrête, il capte l'attention du Créateur, la faveur de Dieu. Et voyez-vous, il y a quelque chose d'extrêmement important ici pour nous dans cette histoire à comprendre ce soir. C'est que le sang de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous n'y tenons aucun mérite. Et ce que Dieu aimerait, c'est que tu acceptes de venir vers lui sans lui présenter rien de toi-même. Jésus a réglé ton passé. Il a versé son sang pour que tu sois quitte avec la justice de Dieu. Écoutez bien ceci. Qu'est-ce que ça veut dire être quitte? Le mot quitte signifie être acquitté, libéré d'une obligation juridique, pécuniaire ou même morale. Par le sang de l'agneau, ce petit agneau donne sa vie pour moi, Abel dit, je suis quitte avec Dieu. Justice est faite. Maintenant, c'est intéressant parce que l'auteur aux Hébreux nous dit que après, vous connaissez l'histoire, on va instaurer le temple, on va instaurer les sacrifices, et à chaque fois qu'un homme veut venir s'intéresser à Dieu, il doit quitter son village, faire un voyage, venir à Jérusalem, préparer un sacrifice, acheter un animal, on tue l'animal, il consulte l'Éternel, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il faut refaire le truc. Imaginez. Donc, l'animal est insuffisant. C'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Jésus est mort il y a 2000 ans, une seule fois pour toutes les fois. Et pour tout le monde. N'importe qui met sa foi dans Jésus, il faut juste... Et voyez-vous, on faisait quelque chose de très intéressant dans le temple. Dieu avait demandé ça. Dieu voulait que celui qui avait commis le mal comprenne ce qui se passe. Et Dieu disait, vous allez tuer l'animal, le mettre sur l'autel, Et l'homme qui offre le sacrifice pose sa main sur la tête de l'animal comme un symbole que son péché passe dans l'animal. Le péché ne passait pas vraiment dans l'animal, c'est un symbole, voyez-vous. Il n'y a pas de magie mystique avec Dieu. Mais c'était pour que le gars qui a fait le mal voit l'animal, le petit agneau, mourir pour lui. Oh, le pauvre, il est mort à ma place. Un peu de remords, un peu de conscience, voyez-vous, qui nous rattrape. Et qu'il pose sa main sur le cadavre et qu'il ressente la froideur parce qu'il n'y a plus la vie. Qu'il dise, waouh, cet animal, il est mort à ma place. Et qu'il accepte que par lui, maintenant, il peut être en contact avec Dieu. Mes chers amis, c'est la simplicité de l'Évangile. Il ne faut rien rajouter. Jésus est mort pour toi. Si tu mets ta foi dans le sacrifice de Jésus à la croix, tu es quitte avec Dieu. Ton passé, c'est terminé. Il ne faut même plus le regarder. Dieu ne le calcule plus. Il y a des chrétiens qui calculent encore leur passé, qui retournent dans le passé, qui croient qu'ils vivent des choses à cause de leur passé. Maintenant, bien sûr qu'il y a des conséquences sociales. C'est certain que si tu commets un crime, il y a une certaine justice en France. Comprenez-vous, si tu voles et que la police t'attrape, tu peux dire, « Seigneur Jésus, tu m'as pardonné, pourquoi est-ce que je vais en prison? » Ben, il y a une justice avec Dieu, il y a une justice avec les hommes, ce n'est pas la même chose. On se comprend bien. Mais le plus important, c'est d'être quitte avec Dieu. Voyez-vous? Et il y a des choses qu'on peut... Parfois, on ne commet pas des crimes selon la justice du pays dans lequel on est, mais on commet des erreurs morales face à nos prochains ou face à Dieu. Tu peux tromper ta femme, tu iras pas en prison en France. Et loin de là. Mais avec Dieu, tu es déjà coupable de mort. Et ta conscience te rattrape. Parce que tu as fait mal à une femme. Tu as brisé son cœur. Tu as brisé le cœur de tes enfants. Il y a des conséquences terribles à l'adultère. Tout le monde en rigole aujourd'hui, mais l'adultère, c'est une chose horrible. Et Dieu le voit. Et Dieu dit, la justice de Dieu va te rattraper. Il y a un seul endroit où tu peux aller te cacher, en Jésus. Il y aura encore des conséquences, peut-être, je ne sais pas. Il y a des couples qui acceptent de se pardonner. Parfois, ça ne se termine pas toujours comme on voudrait. Mais le plus important, c'est que tu sois quitte avec Dieu. Et il faut maintenant, c'est fait. Écoutez-moi bien. La justice de Christ, son sang pour toi, c'est fait. C'est terminé. Jésus a fait son travail. Maintenant, il faut parler de ton travail à toi ce soir et à moi. Notre travail maintenant, c'est de le croire, de l'appliquer. Il faut que tu te dises, il n'y a pas de péché trop gros pour Jésus-Christ. Il n'y a pas trop de répétition de péché pour Jésus-Christ. Pasteur, est-ce que tu es en train d'excuser le péché? Non. Voyez-vous, les gens qui pêchent, leur conscience les rattrape, c'est difficile pour eux. Mais il y a des gens qui chutent, ils demandent pardon, ils chutent, ils se repentent, ils rechutent, et à un moment donné, vous savez ce qu'ils disent? C'est bon. J'ai tellement rechuté dans ces trucs de pornographie, franchement, moi, je ne veux plus à l'église. Ne faites pas ça. Continuez à venir à l'église. Voyez-vous? Parce que si dans ton cœur, tu veux justifier le péché, Jésus n'est pas là pour toi. Mais si dans ton cœur, tu veux t'en sortir du péché, Jésus est là pour toi. Et peu importe combien de fois tu as chuté, combien de fois tu as chuté, mais dans la même journée, peu importe comment tu te sens intérieurement, tellement à l'intérieur d'avoir péché et sombre et ténébreux, peu importe si tu ne te sens pas un grand ami dans une grande proximité, dans une grande communion, et peut-être que tu regardes ta sœur à côté de toi, tu dis, mais elle n'a pas commis le mal que j'ai commis. Moi, vraiment, ma conscience me suit, mes remords, mes regrets me rattrapent. Parfois, je vois une image, un truc, ça me rappelle des choses que j'ai fait, et je me dis, c'est pas possible et tout. C'est certain que si j'avais la belle vie pure, naïve de ma soeur à côté de moi, j'aurais toujours les bras ouverts en train de louer Jésus comme elle, mais moi, je n'ai pas sa vie. Il y a des gens qui se disent comme ça. C'est par le sang de Jésus que tu peux lever tes mains vers Dieu. Ce n'est pas parce que tu as eu une vie meilleure ou moins bonne. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Et par le sang de Jésus, nous sommes quittes avec Dieu. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande pour la simple raison qu'Abel a dit, Abel a compris quelque chose, quelqu'un d'autre doit mourir pour moi, pour que je sois en contact avec Dieu, que je sois quitte avec Dieu. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire sur le sang de Jésus. Romains, tournez avec moi dans Romains, rapidement, et on va terminer bientôt. Romains, le chapitre 6. Juste avant. Ça, c'est la beauté de Abel. On va y revenir dans un instant. Mais on va faire une parenthèse sur Caïn. La Bible dit de Caïn qu'il a voulu offrir ce que lui avait fait. Et si vous regardez ce que, regardez bien ce que Dieu lui répond, OK? Gardez un doigt dans Romains, je vais vous faire travailler ce soir. On fait une vraie étude biblique, OK? Et on revient dans Genèse 4. Regardez ce que Dieu lui dit. L'Éternel dit à Caïn, au verset 6, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un air sombre? » En d'autres mots, pourquoi est-ce que ton visage s'est effondré? Maintenant, j'aimerais tellement parfois qu'on puisse voyager dans le temps et qu'on puisse se retrouver là-bas et voir Caïn travailler tellement fort pour être en contact avec Dieu. Imaginez l'agriculture, là, labourer la terre, se briser le dos. La Bible dit, tu travailleras la terre à la sueur de ton front. Il travaille, il sème, il arrose. L'orge va pousser et puis il attend des mois de travail. Et finalement, il prend de l'orge. Il prend l'orge, il la pose sur une flamme. Elle est desséchée et ça fait une grande fumée qui monte au ciel. Et il pense qu'il est agréable à Dieu. Et Dieu dit, non, je ne veux pas ça. Et tout s'effondre. Vous savez ce que ça représente, ça? Ça représente la religion. Quand l'homme entend que tout ce qu'il peut offrir à Dieu, Dieu dit non, non. Moi, je veux que mon fils. Moi, j'accepte seulement ce que mon fils m'a offert. Seuls les mérites de mon fils. Voyez-vous l'inestimable valeur de Jésus-Christ aux yeux de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce soir à quel point Jésus est précieux pour le Père? Son fils est précieux pour lui. Mon ami, je te donne la clé de toutes les clés ce soir. Si tu honores Jésus, Dieu va t'honorer. Si tu aimes Jésus, la bénédiction de Dieu va venir sur ta vie. Si tu t'intéresses à Jésus, Dieu va sourire sur toi. Si tu dis « Tout ce qui vient de moi ne peut pas être agréable à Dieu », moi, je mets mes yeux sur ce que Jésus a accompli pour moi, la faveur, la bénédiction de Dieu, le ciel va sourire sur toi. Mais Caïn, lui, son visage tombe, mais il va aller plus loin. Il commence à être jaloux de son frère. Et vous savez ce qui se passe? C'est que quand les hommes sont religieux, ils deviennent jaloux de ceux qui vivent dans la grâce. Vous êtes avec moi? Et là, mais Dieu aime tellement Caïn, regardez ce qu'il lui dit. Certainement, il dit, pourquoi es-tu irrité? En passant, vraiment, une toute petite parenthèse personnelle, un petit peu sentimentale. Caïn a quand même eu une grâce exceptionnelle. Dieu est venu en personne chez lui pour lui parler. Imaginez qu'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe et tout, machin. Vous êtes irrité dans votre séjour, vous pensez à une sœur qui est bénie dans l'église, elle est bénie, elle c'est toujours oui, amen, alléluia. Moi, il n'y a rien qui marche, tout est bloqué et tout, toc, toc, toc. Vous ouvrez la porte, c'est Dieu. Puis il dit, viens, on va boire un café. Je vais t'expliquer comment ça marche dans le ciel. Franchement, moi, ça m'aurait fait vraiment plaisir que quand je suis irrité, Dieu vienne lui-même me visiter, tu vois. Donc, vous êtes d'accord que Caïn a quand même eu un certain privilège que Dieu le visite. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu es irrité? Et tu n'as pas compris comment ça marche. Et il ne va pas lui donner la solution. C'est impressionnant, hein? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on cherche. L'Évangile, ce n'est pas pour les paresseux. Dites avec moi, L'Évangile, c'est pour ceux qui en veulent, ceux qui veulent aller de l'avant, ceux qui cherchent. Jésus a dit « cherchez », voyez-vous? Et Dieu ne lui dit pas, il ne lui dit pas pourquoi il bénit Abel. Il lui dit juste, regardez ce qu'il lui dit. Il dit « certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est à ta porte. » Et Dieu lui dit « essaie de comprendre ce qui se passe avec ton frère. Cesse d'être jaloux, regarde pourquoi ça marche chez lui. » Et vous savez ce que Jésus va dire? C'est très, très grave. À un moment donné, Jésus va parler aux pharisiens, il va leur dire ceci, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Là, tu peux dire, mais Seigneur, pourquoi tu fais retomber le sang de Abel sur les pharisiens dans le Nouveau Testament? Il y a à peu près 5000 ans qui se sont... Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, Zacharie qui a été tué dans le temple, c'est déjà au moins 600 ans plus tôt. Mais Seigneur, parce que Jésus est en train de leur dire, vous êtes de la même graine. Et voyez-vous, les religieux, les légalistes, ceux qui essaient d'offrir à Dieu leur mérite, c'est la même graine que Caïn. C'est dangereux. Parce que ceux qui tuaient les chrétiens il y a 2000 ans, ce n'étaient pas toujours les Romains. Hein? C'était les religieux. Qui a tué Abel? Son frère, jaloux. Qui a persécuté les premiers chrétiens juifs? Les juifs religieux, jaloux. Et si vous connaissez l'histoire de l'Église, qui a fait le plus de mal aux chrétiens dans l'histoire? Ce n'était pas toujours le monde. Hein? C'était les religieux, la religion. Parce que le religieux ne peut pas entendre que ce qu'il offre à Dieu est refusé. Tu peux prier, et si tu crois, si tu comptes tes prières, comme le pasteur José a dit, si tu comptes tes prières pour mériter quelque chose de Dieu en retour, c'est annulé. Mais si lorsque tu pries, tu viens vers ton Père céleste, tu peux chercher sa face dans de longs moments, mais tu dis, Seigneur, je ne repose pas sur moi-même, je repose sur les mérites de Jésus. Et quand je regarde à ma vie, par le sang de Jésus, je suis quitte. Amen. Maintenant, je termine avec ceci, et c'est une pensée qui a beaucoup touché mon cœur. J'aime beaucoup l'histoire. Aux États-Unis, à l'époque, durant cette guerre de sécession, qui a risqué sa vie à tous les jours pour libérer des esclaves, les faire passer. Il y avait une ligne aux États-Unis. Si tu traversais cette ligne, tu étais libre. Et certains esclaves qui avaient vécu toute leur vie comme des esclaves, qui avaient été rabaissés, certains torturés, battus, affamés et tout, après un long voyage, parfois sortaient d'une boîte ou d'un coffre dans lequel ils étaient cachés et même déguisés et tout. Et tout à coup, ils se retrouvaient dans le nord des États-Unis et du jour au lendemain, ils étaient libres. Ils pouvaient marcher dans la rue et personne n'allait les attaquer. Ils pouvaient s'habiller comme les autres, manger comme les autres, rentrer dans tous les magasins et vivre comme les autres. Et c'est très intéressant de découvrir le témoignage de certains d'entre eux qui disaient qu'ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas parce qu'ils avaient tellement vécu toute leur vie oppressés, ils n'arrivaient pas à vivre paisiblement. Ils avaient vécu toute leur vie dans le risque. Et maintenant, il fallait vivre juste normalement. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'ils avaient un problème aussi. Il y avait des maîtres d'esclaves qui voulaient se venger, qui payaient des vengeurs pour aller les tuer parfois, ou les kidnapper, ou les rattraper, et les ramener dans le sud, juste par orgueil et vengeance, et juste par méchanceté de l'homme. Alors certains d'entre eux ne vivaient pas pleinement en paix. Mais je n'ai pas le temps ce soir. Mais en terminant, voyez-vous, Paul n'a jamais utilisé cette image. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il manque quelque chose. Mais Paul, dans Romains, va utiliser une autre image. Paul ne parle pas, il va dire « on est passé d'un royaume à l'autre ». Mais l'image la plus importante que Paul va utiliser, c'est celle de la mort et de la résurrection. Voyez-vous, parce que si l'esclave était mort et ressuscité dans un autre monde, personne ne pourrait l'atteindre. Et Paul dit « nous sommes morts avec lui à la croix, donc c'est fini ». Non seulement Jésus est mort pour toi, donc Jésus a payé pour tes fautes, donc ton passé, tes regrets, les choses que tu as faites dans le passé, non seulement tu es quitte et acquitté par Dieu parce que Jésus l'a fait pour toi, mais Paul va aller encore plus loin. Il va dire, nous sommes morts avec lui. Alors vous avez devant vous un homme qui n'est plus coupable. Je suis mort, enseveli, et je suis ressuscité avec Jésus. Elle dit, tu as fait comment? Par la foi. Et maintenant, personne ne peut m'accuser. Je suis quitte. Le Christian Robichaud, pécheur, qui avait fait des choses dans son passé, eh bien, il a payé sa dette, il est mort dans la justice de Dieu, et il a été enseveli, et maintenant, il est ressuscité de nouvelles créatures. Donc, à chaque fois que quelqu'un va t'accuser sur ton passé, tu peux vraiment lui dire, je ne sais pas de qui tu parles. Ah oui, Isabelle, oui, oui, je m'appelle aussi Isabelle, c'est une autre. C'est une autre. Elle est morte, hein? Oui, je sais, elle était coupable, condamnée à mort, mais oui, mais oui, mais justement, tu sais, en fait, ils l'ont tuée. Ils l'ont tuée, ouais, elle est vraiment morte. Ouais, c'est vrai, elle a fait toutes les choses que tu dis, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi tu m'en parles à moi, ça ne me concerne pas. Tu vois? C'est quelqu'un d'autre. Christian, tu as fait ceci, tu as fait cela dans ton passé, c'est vrai. Mais je suis mort, je suis quitte et je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je suis en train de dire qu'on peut excuser le péché? Non. Ce n'est pas pour les gens qui veulent excuser le péché, c'est pour les gens qui veulent se libérer du péché. Amen. On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Est-ce qu'on commence à comprendre un peu ce soir l'inestimable valeur de Jésus-Christ? Amen. J'aimerais vous demander juste de baisser la tête un instant, de fermer les yeux. Je ne sais pas les choses que vous avez pu faire dans le passé. Dieu le sait. Les regrets, peut-être que vous, l'amertume envers quelqu'un, quoi que ce soit. Combien de fois peut-être que vous êtes déçu de vous-même. J'aimerais vous inviter à ne plus jamais regarder à cela, mais à regarder à Jésus-Christ. Et en disant, maintenant par Jésus, je peux marcher en nouveauté de vie. Hallelujah. Et je t'invite juste en terminant, avant qu'on se sépare, avant qu'on rentre à la maison, juste à prendre un moment, juste Dieu et toi maintenant. Tout le monde a la tête baissée peut-être, ou les yeux fermés, dans un moment de recueillement. Et commence juste à dire, Seigneur, je te donne mon passé. Fais juste lui dire tout doucement, Seigneur, je te donne mon passé. Seigneur, je veux croire que je suis quitte avec toi de tout mon passé à la croix par Jésus. Hallelujah. Seigneur, je suis acquitté, ma dette est réglée, ma dette est payée. Le Seigneur a payé pour mes péchés. Hallelujah. Tu peux commencer maintenant ce soir à refuser les remords, refuser que le passé te rattrape, refuser les accusations, refuser le sentiment d'indignité. Hallelujah. Refuser les regrets, refuser de j'aurais dû, je n'ai pas fait, mais si j'avais fait comme ceci, mais si j'avais fait mieux, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça, mais si je n'avais pas fait cela, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. J'aimerais te dire, par Jésus-Christ, il faut que tu traces une ligne de sang avec ton passé, la ligne de la croix avec le passé, et que tu dis, je ne regarde plus en arrière. Et peut-être que tu te demandes, comment est-ce que je peux mériter que Dieu m'aide? Comment est-ce que je pourrais mériter la bénédiction de Dieu sur ma vie? Comment est-ce que je pourrais obtenir la faveur de Dieu sur ma vie? J'aimerais te dire, ne regarde surtout pas à toi ce soir, regarde à Jésus. Regarde à Jésus et le Père va te donner sa faveur ce soir. Accepte le sacrifice du sang de Jésus ce soir. Réaccepte-le. Peut-être que tu es chrétien depuis des années, mais que tu combats encore avec le passé. Peut-être que tu es chrétien depuis des années et tu as de la difficulté à comprendre ceci. Puisse le Saint-Esprit ouvrir tes yeux comme Abel et dire, je dois accepter que quelqu'un d'autre l'a fait pour moi, et je ne peux pas le faire, et je ne tenterai pas de le faire. Je veux mettre ma foi en Jésus ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Avant qu'on se sépare, est-ce qu'on peut juste dire merci maintenant au Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut juste, alléluia, lui dire merci pour la croix, Seigneur? Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci pour la valeur inestimable du sang de Jésus. Hallelujah. Je suis quitte avec mon passé. Je suis quitte avec mon passé. C'est terminé. Le passé est enterré. Le passé est mort. Mon passé a été crucifié. Proclame-le ce soir. Mon passé a été crucifié à la croix. Mon passé a été enseveli. Et même si tu as chuté hier en tant que chrétien, j'aimerais te dire ceci, Jésus, la Bible dit dans Hébreux, il est allé, il l'a fait une fois pour toutes les fois. Même si parfois nous faiblissons, le Seigneur l'a fait pour toutes les fois, il a été fidèle ce soir, alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner une grande acclamation en terminant ce soir? Alléluia. 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 Combien sont heureux ce soir de comprendre un peu plus ce que Jésus a fait pour nous? Combien veulent dire en rentrant ce soir, je veux apprendre à vivre de ses mérites. Je veux apprendre à hériter de son travail. Alléluia. Je veux apprendre à ne plus regarder en arrière. Jésus a réglé le passé. Je veux être comme Abel ce soir. Amen. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut te dire merci pour la croix, Seigneur. Je te demande maintenant de bénir mes frères et sœurs, de les raccompagner à la maison, Seigneur. Seigneur, tu vas les bénir, tu vas les protéger, Seigneur, et nous n'avons aucun mérite, tout est par Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Hallelujah. Merci, rentrez bien, bon mardi soir, bon retour à la maison, et merci Jésus pour la croix. Hallelujah.